Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans GameView, l'émission qui parle de jeux vidéo par des passionnés pour des passionnés. Aujourd'hui c'est un nouvel épisode, j'ai hâte de voir s'il va vous plaire. Allez, bon visionnage. Bonjour, bonsoir, je me présente, je suis Hugo, étudiant en game design, fan de jeux indé, et aujourd'hui je suis là pour parler avec deux membres fondateurs du studio Les Gros Schlag, de leur projet Billardio, de leur vision du jeu vidéo en général. Mais d'abord je vais vous laisser vous présenter. Quel est votre nom, pseudo, votre âge et votre place entre guillemets dans le studio?
Vas-y Abel.
Ah, je commence. Ok. Moi c'est Abel. Du coup, de base je suis de formation, je suis animateur, donc j'ai fait des études d'animation 2D, 3D. Et bon, je suis passionné par le jeu vidéo depuis très longtemps. Et puis avec mon ami Dorian, on fait des game jams depuis un moment. Du coup c'est un truc qu'on fait depuis un moment, je crois 6 ans à peu près.
Ouais, 6-5 ans, un truc comme ça. Hein.
Ouais, voilà. Et on avait toujours fait des petites game jams. Et là, cette année, du coup, comme on a tous les deux fini nos études, entre guillemets, on s'est dit qu'on allait se lancer sur un plus gros projet, en gros. C'est okay. Un peu ça.
D'accord.
Yes.
Abel, et toi, tu es du coup?
Moi, du coup, je m'appelle Dorian Songevi. Et en gros, j'ai fait une école d'info qui s'appelle EFRAE. Voilà, j'ai fait de la BI, donc business intelligence, donc ça n'a absolument rien à voir. Du coup, un peu comme Abel. Et ensuite, bah voilà, vu qu'on a fait des jeux vidéo sur 5 années, au fur et à mesure, j'ai quand même réussi à m'améliorer un petit peu, à savoir, à apprendre comment utiliser Unity et tout. Et du coup, oui, c'est pour ça qu'on s'est dit, vu que là, je viens de finir mes études, on s'est dit que c'était le bon moment, ouais, je prends une année de césure pour justement faire le projet Viriado, quoi.
Ok, nickel. De ce que j'ai compris, il y a un troisième membre dans le projet qui, lui, serait dans le game design, si je me trompe pas.
Ouais, c'est notre ami Balthazar qui est encore, ouais, effectivement, en études de game design, je crois qu'il est en dernière année. Mais il est un peu plus en retrait dans le projet parce qu'il a assez peu de temps à mettre dedans vu que bah justement il est encore en études contrairement à nous qui sommes en année de césure. Du coup pour l'instant il peut pas fournir vraiment de travail dessus, mais il nous avait aidé sur toute la phase de prototypage au début quand on faisait la game jam et voilà.
Ok, d'accord, nickel. C'est ça.
Et après on a aussi, attends, je dis comme, mais on travaille quand même avec une somme designeuse qui nous aide pour les sons, qui avait déjà taffé avec nous sur un autre jeu de jam aussi, et quelqu'un qui fait la musique, voilà, une musique qu'on avait utilisée pour le premier prototype, mais que voilà, on aimerait avoir des musiques originales de la même personne pour la suite, quoi.
Ok, trop cool. Bon, du coup, pour les questions, on va commencer un peu avec l'origine et l'identité du studio. Comment s'est formé Les Gros Schlag et comment votre amitié s'est transformée en projet de studio?
J'en parle dans rien.
Ouais, vas-y, je commence comme ça, j'aurais peut-être des idées.
Bah, du coup, on est amis depuis le lycée, du coup. Très vite, comme on avait les mêmes passions, dont le jeu vidéo, on s'est dit que ça pourrait être marrant d'en faire. Dorian avait déjà commencé un peu à faire des prototypes de son côté pour s'amuser, et puis même moi ça m'était déjà arrivé par le passé d'essayer un peu de me mettre là-dedans, mais Dorian il est quand même plus axé code que moi c'est un truc qui m'a saoulé assez vite, et du coup c'est venu assez naturellement qu'on se mette à faire des game jams, du coup vu que moi j'étais déjà assez porté sur tout ce qui était visuel, dessin.
D'accord.
Et du coup on a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, on a continué parce qu'on aime bien ça. Cette année, comme on s'est dit qu'on allait faire un plus gros jeu et que forcément, pas forcément, mais on voulait le mettre sur Steam et du coup potentiellement le commercialiser, on était un peu obligé de se lancer dans la création d'une entreprise pour pouvoir faire les différentes démarches qui sont requises pour mettre le jeu sur Steam. Et du coup, voilà. On a créé notre studio où on a gardé le nom qu'on utilise depuis le début, qui est une vieille ref qu'on a entre amis.
C'est ça, c'est un groupe d'amis, mais toujours présent. Mais oui, du coup, on a réutilisé le même nom.
Ça m'amène à ma deuxième question. Le nom Les Gros Schlag, c'est une identité forte, un peu provocatrice. Est-ce qu'il y a une intention derrière? Est-ce que c'est juste un nom qui est tombé comme ça sur le lot et qui est resté dans le temps?
Ouais, c'est un peu des deux, en vrai, c'est un peu tombé au pif, c'est-à-dire que c'est vraiment le nom d'un groupe WhatsApp à la base de la base, mais c'est un truc qu'on a beaucoup réutilisé par la suite parce que on aimait bien l'identité du truc en mode un peu les trucs faits de briques et de broc.
C'est ça.
C'est un truc qui nous parlait bien et comme c'est un nom qu'on utilise pour tout ce qu'on fait depuis des années, bah ça nous semblait un peu naturel de le garder, quoi.
Ok, voilà. Ok.
Et puis en général, les gens retiennent bien le nom.
Oui, ça marque. Donc il est marquant, on a du mal à l'oublier, quoi. Il se fait remarquer.
Voilà. Moi, j'aime pas trop tous les. Enfin, bref. Je trouve que les noms de studio, souvent, ils sont un peu simples. Après, t'es pas obligé de trouver un nom bien, mais moi, j'aime bien le fait qu'on ait un truc que les gens retiennent.
Non, je trouve que c'est cool. Ben, c'est dans l'industrie, c'est important de se faire remarquer et aussi qu'on retienne ton nom, quoi. Si tu es nom de studio générique numéro 16, c'est dur que les gens s'attachent à toi et à ton jeu et à ton projet.
Voilà. En France, les gens, ils aiment bien avoir des noms, genre les canards boiteux.
C'est ça, genre les canards, un truc.
Les lézards.
Je sais pas pourquoi j'ai repéré.
Il y a le canard enchaîné, des trucs comme ça. C'est des noms qui sont importants et qui marquent. Si je me trompe pas, Billardo, c'est venu d'une game jam de base.
Alors c'est Biriado.
Biriado, désolé.
T'inquiète, il n'y a pas de souci, c'est chiant à prononcer. Il n'y a pas de souci.
Donc oui, c'est
en plus, on a changé l'orthographe.
Donc c'est venu d'une game jam. Qu'est-ce qui vous a poussé à vraiment passer au niveau supérieur et se dire ce jeu-là, vraiment, je veux en faire un truc sérieux, je veux qu'on continue dessus. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça vraiment?
Il y avait plein d'étapes en vrai. Genre, le premier truc qu'on avait fait, c'est juste d'abord, on a fait la game jam. Alors, je crois que le jeu, parce que du coup, les game jams, en général, on fait des game jams où on peut se noter quand même pour pouvoir voir un peu si on a fait un bon jeu ou si on a fait un jeu de merde.
Ah oui, c'est notre jeu qui a le plus bidé, c'est ça.
Je crois que c'est vraiment le jeu qui a le plus bidé, mais genre de très très loin.
C'est parce qu'on a eu plein de soucis techniques.
C'est un jeu peut-être un peu trop ambitieux pour la jam. Je crois qu'on avait que 2 jours, donc c'était un peu ambitieux.
Oh, c'est court.
On a réussi, je pense, quand même à faire un truc qui était
fonctionnait en soi. Le problème,
ça fonctionnait, mais ça manquait un peu de contenu. Du coup, les gens avaient du mal à comprendre comment ça se jouait. Et du coup, après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait vite fait des petites matchs pour ajouter un petit peu de contenu. Et aussi, vu qu'il y a un système de score un peu comme Balatro, parce que du coup, on n'a pas trop expliqué le jeu, mais voilà. C'est un jeu qui a un mix entre Balatro et le billard, du coup, avec un système de score et un système d'artefacts qui sont comme les jokers qui te permettent de gagner plus de points ou qui changent des choses dans le jeu. Et voilà. Et du coup, au début, on n'avait pas non plus mis de leaderboard. Du coup, les gens, ils n'avaient pas forcément de raison de rejouer. Et une fois qu'on a mis le leaderboard, finalement, il y a pas mal justement d'amis d'Abel dans son école qui vont commencer à jouer et là du coup on a vu qu'ils s'aimaient bien, donc on était contents. Et puis après, ensuite, ce qu'on a fait, c'est que
on est allé
Ouais, c'est ça, en gros on a fait la, je sais plus comment ça s'appelle, mais un meeting sur Paris de game dev indé qui se passe dans un bar.
C'est un truc de café indé pas loin de Châtelet. On avait fait ça. Et puis après, on a fait un autre truc qui était organisé par une école qui s'appelait l'Indie Salon.
Game Nation ou un truc comme ça.
Indie Game Nation, ouais, c'est ça.
Quelque chose de nom, en effet.
Voilà. Et du coup, l'Indie Game Nation, c'est vrai que, le petit truc avec les devs, en fait, on avait vu qu'il y avait plein de devs qui étaient en mode, attends, vous pouvez le publier, le jeu est pas mal et tout. Du coup, on était quand même contents. En plus, on a pu en tirer des bonnes idées. Parfois, on a eu des bons conseils. Et puis après, voilà, Indie Game Nation, on a réussi à gagner le prix du public. Donc, incroyable. Et on a vu que les gens aimaient beaucoup le jeu. Du coup, on s'est dit,
C'est surtout la première fois qu'il y avait les gens qui faisaient autant un jeu qu'on avait fait et qu'ils y rejouaient, quoi. Genre,
c'est ça.
En général, les jeux de game jam, tu joues une fois, tu dis c'est rigolo et tu revas pas dessus, quoi. Parce que.
On les fait, c'est un one shot, et après on a d'autres projets qui arrivent, et voilà, ça reste aux oubliettes.
Surtout, ils ont peu de rejouabilité en général. Tu fais en sorte que ton jeu il soit rapide, les gens ils peuvent jouer vite fait, comme ça, voilà, tout le monde peut tester le jeu. Après, tant pis, s'il est bien, s'il est pas bien, on s'en fout, tu vois.
Déjà, un jeu de game jam qui fonctionne, c'est déjà bien. C'est...
Ah oui, c'est sûr. Pour l'instant, je pense que tous nos jeux de game jam ils ont fonctionné, donc on est content.
Mais c'est parce qu'on est trop fort.
C'est sûrement ça. Alors, du coup, dans un studio comme le vôtre, où c'est 3 amis de base qui vous connaissez, comment c'est de travailler avec des amis de longue date? C'est à la fois une force, un risque. Comment vous gérez la frontière entre amitié et pro, entre guillemets?
On va dire que c'est assez tranquille. bah après, comme ça fait longtemps qu'on fait ça, en tout cas entre moi et Dorian, je pense qu'on a une synergie qui est bonne dans le sens où déjà on se comprend, on a un peu les mêmes refs et puis en plus de ça, ça a jamais été un souci de se dire les trucs quand il y a un truc qui nous plaisait pas.
Ouais.
Quand Dorian n'aime pas que je fais un truc, il me le dit. Quand j'aime pas ce que fait Dorian, je lui dis. Enfin voilà, sur ça il y a pas de souci. Et en général, on se bat pas là-dessus quoi. C'est juste on en discute et puis il y a pas de souci. Donc après, je peux comprendre que moi j'ai déjà bossé avec des amis dans des projets et c'est pas toujours facile. Ça dépend vraiment des gens et,
oui, pareil,
et du tempérament de chacun.
Des gens, quoi.
C'est ça, ça amène à ma question suivante qui était comment est-ce que vous réagissez quand il y a un désaccord entre amis? C'est compliqué parfois de on travaille ensemble, mais là c'est sur un projet du coup qui a un peu plus d'ampleur, de se dire on est en désaccord, mais c'est pas personnel. Comment est-ce que vous réagissez là-dessus? Il y a déjà eu des désaccords un peu qu'on fait monter le
bon,
ton, si j'ose
forcément, il y
dire.
a souvent des trucs où on bah, monter le ton. Bah, entre nous deux, pas trop, mais c'est déjà arrivé avec notre autre acolyte qu'on soit pas d'accord sur des trucs, mais.
C'est sûr.
En général, nous, notre manière de faire, c'est juste on en discute, on explique pourquoi pour moi c'est mieux de faire ça et tout, et ensuite on débat du fait de si on est d'accord ou pas. Après, on trouve toujours des compromis de toute façon.
C'est ça. Hein.
C'est assez simple de trouver des compromis, je trouve, surtout en game jam, comme on est limité par le temps.
C'est ça,
et
oui.
Puis, dans tous les cas, surtout quand on est limité par le temps, comme c'est Dorian qui code, au final, faut quand même prendre un truc qui l'arrange pour qu'il soit le plus efficace possible. Donc, en général, au dernier recours, on fait comme ça.
D'accord. Du coup, comment votre dynamique d'équipe a évolué depuis genre les premières games il y a 6 ans. Est-ce que vous êtes sur la même équipe? De ce que j'ai compris, oui, c'est une équipe de 3. Est-ce que vous avez déjà fait des game jams solo l'un de l'autre côté pour essayer du solo? Est-ce que vous êtes plutôt d'équipe? Est-ce que la dynamique a évolué? Par exemple, toi, Abel, est-ce que t'as touché un peu au développement ou pas du tout? T'es que dans le visuel?
En vrai, il y a plein de trucs à dire là-dessus. En vrai, c'est sûr qu'on a beaucoup évolué dans notre manière de travailler. Au début, c'était n'importe quoi. En même temps, on a jamais fait d'école de jeux vidéo, nous. Donc, de toute façon, on a découvert sur le tas comment fallait faire. Et,
Et franchement, pour la première fois, je trouve qu'on s'en est bien débrouillé quand même. On a vraiment fait n'importe quoi, mais
le premier jeu qu'on a fait, c'était un jeu qui était
jouable.
Les premières game jam, c'est tout le temps sportif. Hein. C'est quand on n'est pas habitué.
Ah, c'était
ça...
très fatigant. Hein.
Putain, maintenant, une semaine. Oh, c'était tellement long.
C'était 5 jours. C'était 5 jours.
Ah, c'est des relativement.
En plus, on avait déjà conscience à l'époque qu'il ne fallait pas des trucs trop longs parce que la game jam, à la base, je crois qu'elle durait 2 semaines. On avait fait exprès de se nerfer et de faire que 5 jours parce qu'on disait que c'était beaucoup trop long sinon.
Ah ouais, peut-être, ouais.
Ah oui, d'accord, ça se souvient.
Bah, en général, on fait ça si on trouve pas de game jam qui dure 2 jours, on prend des game jam plus longs, mais on les fait que sur 2 jours. C'est pour ça, on savait pas.
Parce qu'on n'avait pas forcément le temps. Enfin, on était trop nuls par rapport à ce qu'on voulait faire, je pense. Donc, on avait besoin des 5 jours, en vrai. On avait besoin des 5 jours.
Mais Dorian, au début, il travaillait sur un truc qui s'appelait Construct, qui est très pratique quand t'as moins d'expérience.
Construct, on peut dire que c'est un peu un scratch boosté, mais qui a quand même pas mal de limitations. Donc au début, c'était plutôt pas mal, parce que moi, justement, j'avais essayé plusieurs fois Unity, et à chaque fois, je m'étais tapé, pas forcément sur le code, parce que bon, bah, moi, je fais du code pendant toutes mes études, j'avais du code, mais plus juste au niveau de l'interface. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas super évidentes au début, surtout quand t'as pas forcément utilisé. Je dirais qu'ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient. Mais c'est très bloated, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui servent à rien. T'as des boutons que tu vas jamais utiliser, mais tu le sais pas avant d'avoir essayé, tu vois. Mmh. Et justement, Construct, ce qui est bien, c'est que ça va retirer beaucoup de tous ces trucs que tu vas jamais utiliser. Donc au début, je pense que c'est vraiment un bon moteur pour commencer. Mais effectivement, au bout d'un moment, il te limite.
Ouais, en plus, ça limite beaucoup le travail de groupe, parce qu'en gros, il y a pas de manière très simple de faire comme avec Unity et d'utiliser du Git et tout ça. Voilà.
Il y a des bons jeux qui sont sortis avec, mais je sais, pour avoir parlé avec d'autres devs Construct qui ont sorti des jeux sur Steam, c'est quand même un délire. Hein. Il faut mettre un pipeline de soi-même, mettre en place, quoi. Donc, c'est pas facile. C'est pas fait pour.
Ok. Ouais.
Mais...
Du coup, pour répondre pleinement à la question, bah du coup on est passé sur Unity et depuis bah maintenant on fonctionne avec Git. Du coup moi j'ai dû forcément me mettre à utiliser un peu Unity aussi. Bon, je suis pas très bon, mais
c'est pas grave.
Mais maintenant
ça va,
je comprends comment ça marche déjà. C'est déjà le principal et je sais quoi faire dedans pour là tout ce qui est des parties visuelles. Après, on a essayé une fois de faire une game jam où on inversait les rôles, mais bon, forcément, je ne vais pas apprendre
c'est...
à côté.
C'était un peu compliqué, oui. C'était un peu
on
compliqué.
On l'a pas fini. C'est la seule où on l'a
c'est
pas fini.
C'est la seule
fini,
qu'on n'a pas fait,
forcément,
qu'on n'a pas pu finir.
Dorian, lui, s'est très bien débrouillé avec ses dessins, mais
moi,
moi,
mes
par contre,
dessins
c'était
étaient
la galère.
banger. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est vrai que bon. Moi, j'ai tellement l'habitude de coder depuis 5 ans que...
Bah, Dorian,
j'étais en mode, ça va, ce doit pas être trop dur. Mais du coup, maintenant, j'ai capté que...
Il m'a dit vraiment, mais Abel, tu vois un peu comment ça marche, la logique du code, tu pourrais coder en 2 secondes. Le problème, c'est que moi, c'est des hiéroglyphes, le truc, donc...
Ouais, apprendre à coder quand t'es extérieur à ça, ça peut être un peu compliqué, c'est très...
Ouais.
Au premier abord, c'est pas très attirant, quoi.
Mais du coup, ça nous a quand même permis de faire après, il m'a plus expliqué, et quand même... Je pense que ça me servira pour.
Je pense que ça servira, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr.
Pour vu qu'on est sur Unity et le code, pour les non-initiés, quel est votre point de vue sur l'utilisation de l'IA dans le code, par exemple? Pas de l'IA générative pour générer des images, etc., mais de l'IA qui va aider dans le code. Est-ce que vous êtes plutôt réticent à ça, ou est-ce que vous pouvez l'utiliser, par exemple, Abel, si demain tu veux développer, est-ce que tu serais prêt à l'utiliser potentiellement, ou pas du tout? Vous êtes homme à ça?
Bon, après, moi pour le
on
coup,
a un avis là-dessus, mais...
je suis 100% pour, en tout cas l'IA générative dans le code, dans le cas. Mais après, en fait, le problème, c'est qu'il faut vraiment mettre une limite. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est comme partout où ça va être utilisé.
Tu veux dire qu'il ne veut pas faire du vibe coding dans rien.
Il faut pas.
Voilà.
Exactement.
On n'est pas des vibe coders ici.
Il faut que si tu reprends du code ou. En fait, le mieux d'utiliser, c'est juste pour comprendre. Des features pour parcourir la doc, etc. Ça peut être vachement pratique. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Ou alors pour faire une feature vraiment que t'as vraiment vraiment pas envie de faire et c'est que des trucs que tu ne sais pas ou t'as aucune idée comment faire. Ça peut être intéressant. Mais du coup, ça doit être vraiment un code que t'encapsules d'un côté et tu touches plus. Et en gros, au bout d'un moment, tu seras peut-être obligé de le refactor, mais tu peux le mettre d'un côté et ne pas y toucher. Mais sinon, en général, compliqué. En tout cas, il faut vraiment que tu arrives à, si tu veux l'utiliser, il faut que tu arrives à comprendre chaque ligne et que tu sois capable de dire qu'est-ce qui se passe à chaque ligne. Sinon, ça sert à rien. En fait, tu vas te perdre très, très rapidement.
Ouais, c'est ça.
Donc,
d'accord. Du coup, quand on avait fait les exercices, les différents exercices où je devais coder, j'ai eu recours à l'intelligence artificielle pour essayer de m'aider. Mais effectivement, il faut avoir quand même des très bonnes bases parce que du coup c'est pour ça que évidemment on n'a pas fini. C'est pas possible de juste prendre des bouts de ce que donne, demander des bouts de trucs et les assembler. En fait, à un moment ça marche plus du tout et ça devient de la grosse merde. Donc, mais j'en avais déjà conscience avant. C'est juste là, c'était pour l'exercice, c'était pour le funny fun. Mais évidemment, il faut pas faire ça. Ça marche pas. Ça marche
c'est
pas
intéressant
bien.
Dans le sens où oui, comprendre son code c'est intéressant. L'IA peut aider par exemple à comprendre du code qu'on connaît pas. C'est que moi je peux m'en servir par exemple, ou si je dois refaire un code que j'ai fait 500 000 fois, j'ai juste la flemme d'écrire mes 200 lignes, je vois, vas-y, fais-moi ça en 10 secondes, je l'ai déjà fait 1000 fois, je sais ce que c'est, je comprends mon code et je le connais, c'est plus un gain de temps qu'autre chose, mais faut faire attention à ça. Et en effet, c'est beau de le dire aussi, quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne comprend pas son code, qui a pas de connaissances un peu en algo, va arriver et va faire un code qui a aucun sens ni que dit tête, et ça montre oui que l'IA c'est un outil qui peut ou non être utilisé. Et que c'est ça fait pas tout, quoi. C'est quelqu'un peut pas arriver en mode bonjour, je n'ai jamais touché un PC de ma vie, je vais sortir Far Cry 6, quoi. Non, ça marche pas comme ça. C'est...
Non, mais après, par contre, j'aurais quand même tendance à dire que je pense que beaucoup de du coup maintenant quand même l'IA c'est pas mal utilisé en termes pour le code, je le sais, bah parce que j'ai déjà taffé en entreprise et bah j'ai plein de potes qui ont taffé aussi en entreprise, donc j'ai pas mal de retours là-dessus, mais du coup oui, je sais que c'est quand même pas mal utilisé et c'est vrai que maintenant c'est quand même assez puissant parce que ils ont tout ce qui est comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, mais le fait que l'IA va se questionner elle-même, ce qui va lui permettre d'avoir un raisonnement beaucoup plus précis, de sortir beaucoup beaucoup plus de code sans faire de fautes. Oui. Mais le problème aussi, c'est que et ça, je pense que c'est quelque chose que moi aussi, c'est quelque chose sur lequel je voudrais m'améliorer, c'est qu'il faut pas trop utiliser l'IA non plus. Il faut, à mon avis, il faut vraiment limiter son usage parce que sinon, tu risques d'atrophier un peu tes compétences au niveau du code, parce que forcément, si tu pratiques pas assez, bah tu vas perdre.
Ouais, c'est sûr.
Et du coup, ça, je pense que c'est quelque chose qui va arriver dans les années à venir. Il y a beaucoup de gens qui vont devoir faire ce travail, moi y compris. Et voilà. Donc moi, je pense, parce que ça va pas s'arrêter, ça va juste devenir de plus en plus puissant. Mais c'est pas parce que, je dirais, c'est pas parce que c'est capable de faire une bonne partie de ton travail qu'il faut forcément le faire de cette manière. Parce que je pense qu'à court terme, c'est intéressant, mais à long terme, ça peut être un très gros problème, en fait. Juste en termes de compétences, en fait.
Que si tu es dépendant de ça pour avancer, pour travailler, le jour
exactement.
Où ça disparaît pour X raison, ou pour que tu peux plus t'en servir pour X raison, tu te retrouves à être pénalisé de fou furieux.
Et même le fait de savoir le faire, ça permet d'avoir de meilleures compétences pour manager le truc. Donc c'est important
ça.
De.
C'est, moi, ce serait plus. De, parce que je pense pas que ça va disparaître, mais je pense plus que c'est très important d'avoir ces compétences de base et que ce soit vraiment un support. Plus que,
surtout que c'est ça qui va être recherché à l'avenir, quoi. Donc,
ça. C'est ça. Non, mais je pense que c'est très important d'avoir une très très bonne compréhension de son code avant même d'utiliser de l'IA normalement. Et c'est là où je me dis finalement, parce que moi finalement quand j'ai eu l'IA à partir de ma deuxième ou troisième année, je sais plus exactement, mais du coup j'avais déjà pas mal pratiqué, mais je me dis si tu commences directement avec ça, c'est vrai que en termes d'apprentissage, je pense que c'est pas terrible. Bon, après on verra, hein, mais je pense que la moyenne des devs, on va dire en termes de structure de code, de coding, etc. Dans les années à venir, ça risque de baisser.
C'est ça.
Donc c'est là où tu peux pouvoir faire la diff. Quoi.
Mais c'est là où c'est, juste, si t'es bon et que tu sais te débrouiller sans, ça montre que oui, t'as des connaissances et que t'es pas juste en effet en vibe coding, en ChatGPT fais-moi un jeu STP quoi. C'est...
Bah en fait, il faut se dire que ça va juste ça va être une sorte de multiplicateur en fait. Donc plus tu es fort de base, plus ce sera meilleur ce sera en fait. Et meilleur, mieux tu pourras l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'il faut, vraiment pas trop s'y fier non plus.
Il faut pas juste.
Même si le résultat paraît pas assez mauvais.
Il ouais, faut quand même pas trop s'appuyer dessus. C'est pas très stable et mieux vaut apprendre par soi-même. On est assez d'accord.
C'est une balance. Et ça. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde va devoir apprendre dans les années à venir.
Du coup, on a parlé de code, mais niveau jeux vidéo, en dehors de Balatro, qui évidemment est nommé parce que ça reste une inspiration principale. Est-ce qu'il y a des œuvres, des mécaniques ou des philosophies de game designer qui vous inspirent, des jeux qui vous ont vraiment inspiré, qui vous ont marqué?
Bon, on est forcément inspiré par un peu tout ce qu'on a fait. Enfin, c'est un peu simple de dire ça, mais.
Moi, je dirais plutôt que déjà en termes de DA, direction artistique, du coup, c'est Abel qui a un peu imaginé le truc, mais du coup, c'était quoi? C'était un style japonais des années je sais pas combien.
Ah, c'est le. Attends, c'est la néo-jap esthétique.
C'est vraiment ce fait d'utiliser du blanc et du bleu comme ça. C'est comme ça qu'il a trouvé, il s'est inspiré un peu de ça. Et du coup, je pense que ça marche bien, ça tape bien à l'œil. Donc, en termes de référence visuelle, ce serait plus ça. Ouais.
Pour les visuels, ouais, c'est ça. En fait, pour tout ce qui est interface UI, forcément, surtout les premières versions, là, on a une nouvelle version de. Mais elle reste quand même assez inspirée de Balatro. Parce que c'était au plus simple de garder
l'essence là. Que les gens comprennent ce qu'est le jeu, en fait.
Voilà, il faut bien marketer le jeu. Mais sinon, tout ce qui est en dehors, design, couleur, tout ça, ouais, effectivement, je me suis inspiré de plein d'illustrations qui sont hors du jeu vidéo. Moi, je trouve que c'est important pour se renouveler, d'essayer de prendre un max de trucs qui sont en dehors du média dans lequel tu essayes de performer.
Ouais, beaucoup de refs externes. Ouais.
Comme ça, ça te fera moins ressembler à des trucs proches et ça te permettra en plus de, comme tu changes de média, les réinterpréter beaucoup plus facilement.
Yes.
Voilà. Après, sinon, en termes de mécanique,
Oui, c'est ça, on va s'inspirer du billard. Mais après, aussi comme. En fait, on a fait comme une petite étude de marché juste pour voir un peu ce qu'il y avait et tout. Et ce qu'on aimait bien dans notre jeu, tu vois. Donc, on a testé pas mal de Balatro-like, juste déjà pour avoir une idée. Par exemple, on avait testé Clover Pit, mais ça, on l'avait testé avant même.
Oui.
Voilà. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de Balatro-like qu'on n'aime pas trop. Mais on aime bien Balatro.
Ah ouais, c'est compliqué de. Genre, comme Balatro a une grande influence, etc., il y a beaucoup de copy-call qui sont rapprochés, mais qui restent juste tellement proches du produit de base que du coup, t'as en mode, ben, autant jouer à Balatro directement, tu vois.
C'est pas vraiment ça le problème.
Ah, c'était même pas juste ça. On n'a pas testé les copies conformes de Balatro.
Pour non, ça nous intéresse
pas.
C'est pas
très intéressant. Mais...
mais par exemple, voilà, bah, je peux en citer quelques-uns. Bah, du coup, il y avait par exemple Clover Pit ou alors Dice A Million, voilà, qui sont deux jeux un peu Balatro-like avec où tu dois faire monter des chiffres. Donc, il y en a un, c'est une roulette et l'autre, c'est des dés que tu dois lancer. Et en gros, l'idée de ces deux jeux, c'est pour faire monter le score, en fait, t'as énormément de chance que tu dois avoir, en fait, tout simplement. Sinon, tu vas avoir du mal à progresser. Et du coup, il y a beaucoup de chance et il y a assez peu de manières, on va dire, de contrôler ta run, entre guillemets. Et du coup, ça fait que, voilà, en fait, c'est OK, il y a plein de trucs qui se passent, c'est très cool et tout. Mais c'est pas, pour nous, c'est pas assez focus sur le deck building. Et en termes de stratégie, c'est pas assez intéressant. Donc, c'est des jeux qui font très bien ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire être facilement accessible et tu peux y jouer rapidement comme ça. Et au bout d'un moment, peut-être, oui, t'auras une meilleure idée de comment jouer. Mais ça, il y a des gens aussi qui aiment bien ne pas vraiment pouvoir savoir ce qui va se passer et tout. Ça peut être intéressant, en fait, ça se comprend. Mais voilà, nous, c'est pas une direction dans laquelle on veut aller. Mais du coup, c'est pour ça. Et il y a pas mal de Balatro-like qui vont dans cette direction-là. Et nous, on va plus dans une direction un peu plus deck building, où plus tard, on va essayer vraiment de permettre de faire plusieurs builds qui sont pas forcément les meilleurs, mais que tu serais un peu obligé de jouer comme dans Balatro. Parce qu'en fait, Balatro, de base, il te laisse jouer un peu tous les builds que tu veux, mais au fur et à mesure que tu montes en difficulté, tu vas avoir des options qui vont disparaître ou des choses qui vont devenir plus difficiles, ce qui va te forcer à faire des choix plus complexes et à faire un deck qui va être assez différent finalement en fonction des parties et en fonction de ce que tu vas avoir. Parce que tu vas devoir réagir au jeu et non pas juste essayer de forcer le même build en boucle en fait. Et c'est plus ce genre de choses qu'on cherche en fait.
Okay,
donc c'est plus là-dessus.
De base j'avais des questions aussi pour votre collègue game designer, mais du coup il n'est pas présent malheureusement, mais j'ai aussi des questions pour vous. Avant de travailler sur votre jeu, est-ce que vous vous rendiez compte de la tâche que c'était de sortir un jeu complet et pas juste une full game jam de 4 jours après on ne touche plus? Est-ce que vous aviez conscience de la charge de travail que ça impliquait? Ou est-ce que vous étiez en mode oh, en vrai, go on, ça y va, ça passe? Ou vous vous rendiez compte de ce que c'était?
Bah, à partir du moment où tu crées une société et que,
tu
ne prends pas en compte le fait que ça va être compliqué, ça va être long, etc. Bon. Je dirais que tu mets un peu des bâtons dans les roues. Enfin,
oui. Ouais. Oui. Tout dépend aussi du jeu que tu veux faire. C'est très important de bien préparer son scope.
Un bon scope, c'est très important.
C'est même le truc le plus important, je pense.
Bah, c'est ce qu'on a fait. On s'est mis en notion. On a mis plein de choses dessus, justement, sur quelle va être la durée du jeu, quel prix on voudrait le mettre, quelle va être la durée des parties, c'est quoi la quantité de contenu qu'on veut mettre, etc. Je pense que c'est des questions que tu dois répondre quasiment dès le début, en tout cas pour la majorité des jeux.
Surtout sinon, si tu pars sur un temps imprécis et ça peut effectivement prendre beaucoup plus de temps que ce que tu peux imaginer, quoi. Donc c'est très important de poser des bases de ce que tu vas faire.
C'est ça. En fait, déjà de base, il faut se dire que ça
limite aussi
2 à 3 fois plus de temps que ce que tu disais de base. Donc il faut toujours se donner de la marge en plus. Non, en vrai, je pense que vu qu'on a quand même fait pas mal d'études de marché, juste regarder ce qu'on était capable de faire, le fait qu'on ait fait des game jams depuis 5-6 ans, qu'on en ait fait une dizaine. Moi, j'ai aussi fait un petit fan game qui m'avait pris que j'avais fait sur. T'as fait 3 mois en tout. Full dessus, mais réparti sur genre 9 mois à peu près, donc c'était quand même un long projet pour moi. Donc non, je pense qu'on a quand même, on sait à peu près dans quoi on s'engage. Après forcément, oui, c'est une grosse tâche quoi, mais pour le coup, je pense qu'on s'est bien préparé.
Ok, je sais que c'est quelque chose qui est assez complexe pour des game designers ou des devs qui débutent, de se fixer un scope réalisable, de pas partir avec du et si on fait ci, et si on fait ça, de pas être un killer freak et d'arriver et de tuer son jeu avec.
Après, c'est pour ça que je pense qu'il faut. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire des game jams. Des game jams le plus tôt possible et le plus possible, parce que c'est ça, ça va t'apprendre à te dire non, j'ai pas le choix, faut que je fasse un choix. Je fais mon choix vite et je vais vers le truc le plus simple. Et en général, il vaut mieux faire un jeu qui est potentiellement moins bien avec tous les trucs que tu pourrais mettre, mais un jeu qui soit bien et qui soit sorti et qui soit polish, plutôt qu'un jeu avec plein de features qui est buggé, qui marche pas du tout et que personne n'aime en fait. Donc ça a toujours été notre mentalité et voilà, on continue comme ça. Et je pense que c'est le seul moyen de faire des jeux cas, dans la majorité des cas, surtout si tu veux faire un petit jeu comme le nôtre. Sinon, tu finis comme la majorité des cas où les gens essaient de faire un jeu sans avoir d'idées de planning, etc.
Ouais, et
là,
jamais.
Et c'est terrible pour eux, tu vois. Voilà.
Non, c'est compliqué de se donner, de réussir à. Alors que c'est un métier de passion, on est tous très. Je veux faire ci, je veux faire ça, de se remettre à un côté beaucoup plus professionnel et réaliser des choses et de ne pas être dans l'imaginaire de ce que le jeu pourrait être, mais dans le factuel de on a tel nombre de temps, on a tel temps, on a telle capacité, tel temps disponible par semaine pour travailler dessus. C'est quelque chose qui peut être compliqué, mais que c'est important de se mettre dessus. Et en vrai, vous avez bien travaillé là-dessus, c'est impressionnant. Parce que justement, de base, de ce que j'ai compris, vous êtes tous les deux pas Game Designer, c'est votre collègue qui l'est. Comment par rapport à ça, du coup, vous avez. Quel lien vous avez avec le game design, vous? Est-ce que c'est plutôt votre collègue qui prend les décisions game designer et toi, Abel, qui gère la 2D et Dorian qui gère le God? Est-ce que les réflexions sur le game design, vous les faites tous ensemble? Est-ce qu'il a un avis plus tranché ou plus compliqué? Comment est-ce que vous vous positionnez sur le game design? Est-ce que vous êtes plus des Dorian qui code, t'es plus un j'exécute les idées de mon collaborateur, ou est-ce que c'est non, on est tous les trois, on a la même place, on a la même force de décision dans le projet?
Vas-y, je vais répondre. En gros, comme je l'ai dit, notre pote game designer, il est beaucoup moins disponible que nous. Et puis, c'était même le cas avant. En général, il est occupé. Genre, la majorité des game jams qu'on a fait, on l'a fait sans lui. On en a fait que très peu avec lui. Et du coup, c'est souvent Dorian et moi qui faisons le game design. Et notre rapport à ça, en fait, c'est nous le jeu vidéo. Ce qui nous intéresse dans le jeu vidéo, c'est le design dans le jeu vidéo en principal, parce que moi, c'est pareil. Par exemple, je m'occupe de l'aspect visuel évidemment dans le jeu vidéo, mais moi là-bas, je fais des études pour faire des dessins animés. Et moi, par exemple, quand j'anime sur du jeu vidéo, je me sens beaucoup plus limité que quand je fais des dessins animés sur la partie visuelle, vu que tu as beaucoup plus de restrictions. Donc, c'est aussi quelque chose que j'apprécie. Mais moi, ce que j'aime vraiment dans le jeu vidéo, ce qui fait que je suis passionné par le jeu vidéo, c'est tout ce qui tourne autour du design, le gameplay, tout ça. Et pour Dorian, il me semble que c'est un peu pareil. Même s'il aime bien coder les jeux vidéo, ce qui fait qu'il aime le jeu, c'est vraiment le gameplay, tout ça. Donc, on est toujours à deux. Après, ça dépend souvent des game jams. En général, c'est vrai que c'est souvent Dorian qui trouve les idées de base. Et puis, surtout, comme on doit avancer vite et que c'est lui qui code, c'est souvent lui qui fait beaucoup de décisions, ce qui est assez normal pour moi, je trouve. Ça nous permet d'avancer plus vite. Mais on va toujours en discuter. Apporter mon point de vue. Balthazar, quand il est là, il apporte son point de vue aussi et on en discute. Mais c'est ça, en général, c'est une sorte de tout.
D'accord.
Ça. Après, voilà, même typiquement, Abel, surtout sur le dernier jeu, il avait fait quasiment tout le game design. Hein. On avait fait un très bon jeu aussi. Donc, je pense qu'on peut très bien se partager le game design entre nous et c'est pas forcément un problème. Mais effectivement. C'est ce qui nous intéresse dans le jeu vidéo, c'est aussi prendre ces décisions-là, tester des choses, voir si ça marche, si ça marche pas, tant pis, mais voilà, on fait ses choix et on voit ce qui se passe, quoi. Ça fait partie du fun.
Okay. Ouais.
Mais travailler sur un jeu complet comme ça pendant autant de temps, est-ce que ça a changé votre manière de regarder les jeux vidéo en général? Est-ce que vous trouvez que avant cette période où vous avez commencé à beaucoup développer sur votre jeu actuel ou même pendant les game jams auparavant, est-ce que vous pensez que vous avez la même même regard de joueur avant par rapport à maintenant? Est-ce que vous regardez les jeux maintenant d'un point de vue plus comment est-ce qu'il a fait ça niveau code, comment est-ce que je peux avoir quelque chose de ce style là niveau visuel, ou est-ce que vous arrivez à vous détacher de ça et garder un point de vue de joueur vraiment genre je joue pour jouer et je me détache du côté travail entre guillemets quand je prends ma manette en main?
Ça, pour le coup, ça fait très longtemps que je pense qu'on peut pas y échapper, mais c'est comme un peu avec tout. C'est par exemple quand tu commences à t'intéresser vraiment au cinéma que tu travailles dedans, tu vas forcément avoir cette déformation professionnelle quand tu regardes un film, de te dire ils ont filmé ça pour faire ça et tout. Et du coup, c'est forcément un truc que tu vas retrouver dans le jeu vidéo. Hein. Moi, quand je joue de plus en plus, forcément, tu tu vas commencer à avoir des manières de réfléchir et même des manières de juger le jeu qui sont vachement plus axées là-dessus. Genre, tu vas te dire, bah là, je comprends rien, c'est parce que tu vas commencer à te dire que c'est bah, parce que le niveau il est mal fait, ils ont mal réfléchi leur level design et tout. Mais ça fait longtemps que c'est comme ça, parce que ça fait longtemps qu'on est passionné par le jeu vidéo, donc forcément,
Ça, on s'intéresse, on regarde.
ta vision qui change sur le jeu, c'est normal.
Puis
Mais
surtout
moi,
si
je
tu
trouve
joues à
que
beaucoup de
ça
choses.
n'empêche pas de profiter de l'expérience. Au contraire, c'est encore plus gratifiant quand c'est bien fait.
Ouais, je suis d'accord.
Je trouve que ça décuple l'émerveillement.
Ouais, bah moi je suis un peu de cet avis. Vu, en fait, c'est ça, vu qu'on joue à des jeux, même pas mal de jeux indés maintenant, depuis un bon bout de temps. Voilà, on a l'habitude, et c'est vrai que quand tu vois que c'est des petites teams et tout, tu te dis, ouais, c'est intéressant comment il a fait. Mais c'est vrai que depuis que je fais des jeux, il y a pas mal de jeux où je me disais, peut-être c'est faisable. Et avec de l'expérience et tout, je
C'est
me
vrai que
dis,
tu te rends
non,
compte
le mec est
de la charge
vraiment
de
chaud.
travail.
Il a pris énormément de temps et je comprends comment il a fait. Je peux comprendre et je peux voir un peu le temps que ça lui a pris. Mais en fait, comment dire, ces dernières années, ce qui a surtout changé au niveau de ma vision du jeu vidéo, c'est vraiment que bah forcément, tu vois pas toutes les. En fait, tu dis, tu as le produit brut, en fait, tu vois le produit fini. Donc, tu dis, ok, bah en fait, je peux facilement le faire. Et c'est possible, effectivement, tu peux facilement le faire. Mais tu prends pas en compte toutes les étapes de design qui ont été mises en place, où à chaque fois, il a testé quelque chose, puis après, il a testé quelque chose d'autre. Et il y a plein de trucs qui ont viré, qui ne sont pas restés. Et c'est ça, c'est. Bah, ça prend une très très grosse partie du temps et ça c'est pas forcément quelque chose que tu vois. Mais c'est vrai que avant de vraiment coder des jeux et bah, les faire moi-même, j'avais pas forcément conscience que ce travail était aussi important, tu vois. Donc ça bah, maintenant j'arrive vraiment à m'émerveiller, être en mode waouh putain, ils ont trop bien pensé le truc, c'est incroyable, c'est parfait. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup plus maintenant. Mais c'est effectivement, moi je considère plus ça comme un avantage que. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui bah maintenant je décortique trop les jeux, j'ai plus de fun. Non, moi j'ai pas de problème avec ça.
Ouais, c'est pareil avec le cinéma. Hein. Moi, j'en dis que je suis trop aigri, mais j'aime toujours regarder des films.
Dans votre voix, on sent que vous êtes vraiment des passionnés, que c'est quelque chose qui vous anime. Comment est-ce que vous gérez avec ça, avec la difficulté parfois quand on est dans un métier de l'art, de se déconnecter, de se poser Je sais que personnellement, je travaille depuis mon PC, du coup, je développe aussi. Parfois, c'est dur de se dire, je rentre chez moi, ben, mon PC, j'ai accès à Unity, je peux lancer en 2 secondes. Mais non, j'arrête, je me pose. Ça peut être une difficulté pour beaucoup de gens qui font de la création ou de l'art en général, de savoir s'arrêter et de pas être tout le temps là-dedans, car la frontière, vu qu'on fait du jeu vidéo, la frontière entre c'est ma passion, le jeu vidéo et le fait de créer. Comment est-ce que vous gérez cette frontière-là? Est-ce que vous arrivez à vous arrêter, à se dire non, c'est bon, ce soir je taffe pas, ou s'arrêter? Je sais que j'ai le truc de parfois je me réveille en mode oh putain, là j'ai une idée de code, si je l'applique maintenant, à me réveiller la nuit, à dire oh putain oui, j'aimerais implémenter ça, toucher à ça. Est-ce que vous arrivez à gérer cette frontière entre je laisse mon PC de côté ou je travaille beaucoup sur ma passion?
Bah ça dépend, je dirais. Moi quand je suis en
Ouais.
game jam, je suis en full tryhard. Il y a pas de moment de
C'est
pause.
ça, mais c'est pour ça qu'on prend des trucs courts de 2 jours. Mais ouais, moi j'arrive assez bien à le gérer, on va dire, même un peu trop. J'ai tendance à être un peu une feignasse en dehors des moments de gros tryhard. En fait, tout dépend du projet.
Le problème, c'est qu'il est extrêmement efficace, du coup, il peut se permettre.
Quand je suis. C'est ça, en
La
fait,
chance
moi,
du génie.
bah, c'est pas vraiment génie, mais c'est plus savoir travailler rapidement. Quand on fait du jeu vidéo, après ça m'arrive d'être. En fait, tout dépend du moment. Des fois, il y a des moments où je suis vraiment happé par le fait, genre j'ai plein d'idées et j'ai envie de les ajouter. Et ça m'est déjà arrivé de travailler sur Biriado quand on faisait des mages beaucoup à une période. Ça m'est déjà arrivé de tryhard pendant une nuit entière jusqu'à écrire sur du mat juste parce que j'avais envie. Mais. Quand c'est plus des moments de mou où j'ai plus trop d'idées et j'ai plus grand chose à faire, en général, il n'y a pas de souci avec le fait de déconnecter et faire autre chose.
Ok.
Ouais, bah moi du coup maintenant qu'on fait le jeu bah, sur une plus longue période, bah maintenant je me fais juste mon planning, je travaille pendant mes heures de travail et si par exemple j'ai des idées et tout, je les note sur mon Trello où j'ai tous les trucs que je dois implémenter. Ça me fait ma petite liste, comme ça, hop, j'ai plus à y penser et je fais autre chose. Moi, je pense que c'est très important de justement séparer le moment où tu taffes et le moment où tu taffes pas, parce que sinon, tu te dis toujours, putain, je devrais taffer, en fait, j'ai pris du retard et tout. Non, moi, je pense que c'est important, tu sépares bien les choses. Tu taffes pendant tes heures de taf et quand t'as fini quoi. C'est comme un taf normal, je pense qu'il faut le prendre. Mais avec les avantages de tu peux te fixer tes heures. Donc si t'as envie de travailler à 3 heures du mat et que t'avais pris un peu de retard, tu peux faire ça. Mais faut le faire
Oui, non, il
dans
faut
la
prendre la
nuit
part. Moi,
dans la limite.
c'était pendant une période où on n'était pas du tout en full time, et même actuellement, là, je suis pas encore en full time sur le jeu parce que on a besoin que Dorian il développe certaines choses pour ce que je continue. Et puis même moi, actuellement, je suis en train de préparer des dossiers pour mon autre parcours professionnel. Mais
Futur dans la mission.
évidemment, si oui, évidemment, si on est en full time, c'est très important de prendre des pauses et de bien s'organiser, sinon c'est
Tu n'y
compliqué.
arrives pas. Hein. Ou alors il faut être très très fort. Mais moi je suis pas capable.
De ce que vous me racontez, le projet a dû être assez bien passé, même très très bien passé. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu de découragement ou de doute par rapport au projet? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous rendez compte de l'ampleur et vous dites, ah, ok, un peu de doute, ou est-ce que vraiment c'est allé comme sur des roulettes?
Bah écoute, hein, pour moi en tout cas c'est full doute tout le temps, hein, mais je
Ah.
pense que comme beaucoup
C'est ce que j'allais dire.
de
J'allais
bons
dire,
devs,
c'est lui qui panique, c'est surtout Dorian.
voilà, mais si tu suis beaucoup, enfin moi je sais que j'ai tendance à quand même regarder pas mal de contenu un peu sur des devs justement pour voir un peu comment ils ont fait, comment justement toute cette partie organisation, remise en question et tout. Et bon bah c'est juste, ça fait partie du métier, hein, c'est voilà,
C'est important.
faut l'accepter. Oui, mais je veux dire, en général, t'as surtout un doute excessif. Et je pense qu'en
Ah, mais
général, ce
c'est
qu'il
ce
faut
que je
faire,
dis. En
c'est
général, Dorian
juste.
aime bien se dénigrer et dire qu'il est moins bon qu'il ne l'est, mais.
Ouais.
On est tous un peu comme ça.
Mais moi,
Mais
je pense
oui,
que
je comprends.
c'est
Moi, j'ai
normal
l'habitude
de
avec mes
douter.
descendants.
Il faut, oui, voilà, tu vois. Il faut juste l'accepter. Et vivre avec, tu vois, faut
Mais
juste se
oui.
poser les bonnes questions, quoi. Il y a juste des moments où, effectivement, le doute, il y a une raison, il y a d'autres moments où il n'y a pas de vraie raison, et du coup, tu te dis,
Ouais, moi
bah,
je pense que
tant pis, hein.
c'est mieux de douter de son travail que au contraire être beaucoup trop sûr et de
Je
foncer
pense
dans le
aussi.
mur. Mais par contre, pour moi, c'est bien d'avoir le doute et tout, mais il faut pas que ça t'empêche d'avancer, parce que je sais qu'il y a des gens qui du coup s'empêchent de sont un peu
Ouais.
tétanisés par ce
La
doute
peur de l'échec, etc. Oui.
et voilà, ou même se considèrent pas assez bon et du coup ils ont peur de terminer des choses parce que c'est pas assez bon ou quoi. Moi je pense que c'est quand même important de savoir continuer à avancer même quand tu doutes de ton travail.
Et je pense aussi. Je pense que c'est
Ah,
important de terminer les choses en fait, mais c'est
oui,
autre chose.
je suis assez d'accord. Ben, c'est important de
Mais
se remettre en question et de remettre en question son travail pour toujours évoluer. Il faut pas non plus se lyncher et se dire non, je suis pas assez bon, c'est pas assez bien. Faut aussi accepter parfois que notre travail est bon et savoir le reconnaître, quoi. Faut être dans le doute
bah,
de la
pour
progression.
moi, oui, mais pour moi, tu peux juste te dire, bah, c'est de la merde, mais c'est pas grave, on va continuer. Parce que de toute façon,
Ouais, c'est ça.
si t'es tétanisé, tu vas pas avancer et ce sera pire.
C'est
Donc,
toujours ça. Fait, bah, par exemple,
juste,
en game
tu
jam,
avances,
même
hein.
quand le jeu on est presque à la fin et il est nul à chier, on essaie quand même de le finir.
Mais c'est ça. Moi, en général, je sais qu'à
Histoire d'être
chaque game
content.
jam, sur 2-3 jours, c'est quoi si. En général, début de la journée 2 ou mi-journée 2, je me dis putain, on n'a pas du tout avancé, ça va être nul à chier, et on a réussi toujours à faire un truc qui marche bien, et donc je suis fier. Donc
À la
écoute,
dernière minute.
faut
C'est le rush
juste,
final, hein, c'est.
tu continues, et au bout d'un moment, ça marche en général.
Keep
Tant que tu poses les
pushing.
bonnes questions, normalement ça passe. Au moins, tu auras un truc mid, au minimum.
Un truc mid
C'est
qui
déjà
marche
ça.
et que t'as terminé, c'est déjà bien.
Exactement, c'est déjà bien.
Bon, pour repartir sur un côté plus joyeux, j'ai vu que sur Steam, le jeu a reçu plus de 4000 wishlists, si je me trompe pas. C'est impressionnant pour un.
7 500,
Bravo!
7 500.
Bravo, c'est beau!
Voilà, c'est ça.
Franchement, c'est beau, hein! C'est impressionnant pour un premier jeu. Est-ce que vous vous
Très très
attendiez à
content. Il n'est
un
pas
tel
content, lui.
accueil? Et comment
Bien
est-ce que
sûr
vous
que non.
viviez ça? Est-ce que vous vous attendiez à un tel accueil? Et comment est-ce que vous viviez ça? Est-ce qu'il y a un peu de pression? Ou est-ce que vous êtes encore plus motivé qu'avant, vu qu'apparemment les joueurs ont l'air d'être au rendez-vous? Comment est-ce que vous vivez ça?
Bon, moi, en termes de motivation, ça n'a rien changé parce que dans tous les cas, je voulais faire le jeu et Je suis pas du genre à être stressé pour ça. Mais en tout cas, je suis content. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien.
Yes, c'est sûr. Bah, on s'était dit peut-être 2-3 000 wishlists à la sortie, on serait vraiment content. Donc,
Ah, c'est bon.
7 500 wishlists au bout de 1 mois et demi, c'est pas
Oh, c'est
mal.
très très beau, hein, c'est franchement.
Bah, c'est suffisant normalement pour nous mettre dans les popular upcoming, ce qui permet de te mettre en avant par sur Steam. Donc, c'est là, on va dire le premier step, si tu veux au moins réussir à te rembourser, ce qui est déjà bien. Donc, normalement, on a de fortes chances qu'on puisse au moins rembourser tout ce qui est son et musique. Et paiement Steam, etc. Donc, on est déjà très content que voilà, on soit arrivé à ce niveau-là. On pensait pas que ça allait aussi bien marcher, c'est sûr. Mais bon,
Voilà.
après,
Et
oui.
puis, faut relativiser, c'est pas encore des ventes et
Oui,
on
mais
n'a pas encore
ça
fini le
reste beau,
jeu.
quoi.
Oui, c'est cool, mais c'est surtout dû au fait qu'on a eu la chance de percer sur les réseaux et pour l'instant, la notoriété du jeu est pas encore, on va dire, vraiment due au jeu. Donc,
Engageable.
on attend la sortie, quoi.
C'est ça, on
Faut
l'attend
faire la
aussi avec
démo,
impatience, hein.
faut prouver. Faut prouver. Mais oui. Bah après, c'est sûr que ça met. Je pense que ça met. Moi, je trouve ça. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, ça me met un peu de pression parce que moi, je suis juste en mode, bah, au pire, je fais un jeu, c'est de la merde, c'est pas grave, il y a personne qui va jouer. Là, s'il y a 7 000 personnes, forcément, c'est. Tu te dis, bon, faut faire un truc un minimum bien. Bon, putain, on verra, hein. Keep
Ça. Si jamais le
pushing,
jeu fonctionne bien, vraiment bien, est-ce que vous imaginez continuer dans le travail du jeu vidéo à plein temps? Par exemple, Abel, est-ce que tu te verrais full time dans le jeu vidéo? Ou est-ce que tes occupations à côté sur l'animation 2D ont une importance telle que tu te verrais pas full, genre ok, le studio prend une ampleur où on travaille à plein temps dans un projet complet pour les années à venir?
Bah, actuellement, moi, de toute façon, dans ma carrière professionnelle dans l'animation, elle n'a pas encore commencé. Donc, de toute façon, de ce côté-là, c'est tranquille. Et bah, en fait, tout dépend de la viabilité du truc. Si le truc est vraiment viable, moi, je pense que j'aimerais bien parce que bah, le jeu vidéo, ça reste quand même une de mes passions. Et en plus, je serais beaucoup plus libre que l'animation. Enfin, travailler dans des studios, c'est très cool et tout. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire dans ma vie, c'est sûr. Mais c'est aussi un endroit où tu as beaucoup moins de liberté. Et,
c'est un peu précaire quand même.
et
C'est ça.
voilà, l'animation en ce moment, c'est un peu galère. C'est-à-dire que même si tu es très fort, tu n'es pas sûr d'avoir du taf.
Yes.
Donc, évidemment, si je pouvais avoir une deuxième voie viable où en plus je peux faire des choses qui me plaisent. Vraiment, et en plus avoir directement la reconnaissance sur ce que je fais, parce que aussi c'est pas forcément le cas en animation, il y a beaucoup de travail ingrat tout le temps, ce qui est logique, hein, mais c'est comme ça. Donc si je pouvais en plus marcher avec un truc qui est vraiment personnel, évidemment ça me ferait très plaisir, et je pense que oui, mais il faut vraiment que ce soit viable, quoi.
Et toi, Dorian?
Bah moi, en fait, on va dire, ça fait depuis peut-être 2-3 ans où j'essaie vraiment de me mettre dans un, comment dire, dans une position où je pense être capable justement de développer un jeu sur Steam. Donc depuis 2-3 ans, voilà, j'essaie de travailler bah quand j'ai le temps dessus. J'ai mis pas mal de temps. Donc là, juste rien que le fait de maintenant pouvoir travailler en mode full time, ça me libère beaucoup de temps pour faire autre chose dans mon temps libre. Donc c'est cool, je suis content. Mais oui, moi j'ai quand même essayé de. Ça fait quand même un bout de temps que j'essaie de travailler là-dessus. Donc je suis content. Et bah, je dirais que si ça marche pas, en fonction de à quel point ça marche pas, je pourrais peut-être quand même essayer de continuer. Et si ça marche, par contre, pour moi, c'est un 100% sûr, je vais continuer. Ça,
Trop bien.
pour moi, c'est une évidence. Si on arrive au moins à se payer un SMIC, pour moi, c'est évident que
C'est déjà beau. Ce serait stylé.
je vais continuer. Parce que après, en plus, si tu, enfin, c'est logique finalement quand tu y penses. Mais si tu regardes un peu les stats, bien sûr, le premier jeu a de très très faibles chances de juste se rembourser, hein, se rembourser si tu comptes te payer, bien sûr. Mais en fait, plus t'arrives à survivre à faire des jeux, plus t'as chance. Et si, bien sûr, que tu scales pas comme un débile en prenant 40 personnes dans ton studio, bah t'as de
Oui.
bonnes chances de, t'as
Du
de
coup,
plus en plus
plein
de
qui
chances
font
d'être
ça.
rentable en fait. T'as de plus en plus de chances d'être rentable. Donc si t'as un premier jeu rentable et que tu peux te le permettre et que t'as envie de le faire, Moi, je pense que ce serait vraiment faire n'importe quoi de ne pas même pas essayer de continuer
Ah oui,
derrière, quoi.
parce que forcément, si tu fais un deuxième jeu, non seulement tu peux gagner une partie de la notoriété que tu as déjà gagnée avec le jeu qui a marché avant, mais en plus de l'expérience.
C'est
Donc c'est
ça,
un
t'as
peu
beaucoup
comme refaire
d'expérience.
un jeu, mais avec des bonus en plus.
C'est ça. Juste,
Forcément.
t'es juste meilleur, tu connais les gens, tu sais, tu connais tout ce qu'il y a à faire sur Unity, t'as déjà ta pipeline déjà préfaite. Tu prends ce que t'as fait, tu l'améliores plus ou moins, tu fais un autre jeu. Si t'arrives à garder les pieds sur terre, je pense que si ton premier jeu marche, t'as de très fortes chances que ton deuxième jeu marche. En tout cas, c'est ce que j'ai eu l'impression de voir.
Bah, vu qu'on parle du futur, quel est votre avis sur le futur du jeu? Est-ce que vous comptez le sortir et faire mise à jour sur mise à jour, etc. Ou est-ce que vous avez des potentielles déjà idées de futurs jeux de... Quelle est votre dynamique là-dessus? Est-ce que vous êtes en mode non, pour l'instant on reste sur Billardo? Oh, désolé si je prononce mal.
Pas de soucis, t'inquiète, t'inquiète.
On reste dessus et on verra en temps venu s'il y a un futur jeu, ou est-ce que vous avez des idées en tête qui commencent à venir pour un potentiel futur jeu?
Bah, tout dépend du succès du jeu. Et puis par contre, pour le coup, on avait mis au clair sur le fait que Birado, ce ne sera pas un game à service, il n'y aura pas spécialement de mise à jour après la sortie du jeu. Enfin, en tout cas, c'est ce qui était prévu de base. Et le but, c'est de donner un jeu fini quand il sortira sur Steam et de pouvoir passer à autre chose ensuite, quoi.
C'est ça, potentiellement rajouter un peu de contenu. En fait, ça dépend forcément. Si
Tout
le
dépend
jeu
du
marche
succès.
un peu, effectivement, on pourrait se permettre de peut-être passer un mois en plus pour ajouter un peu de contenu. Mais l'idée, ce serait pas de passer 6 mois de plus dessus. Donc l'idée, ce serait de le sortir peut-être à peu près dans 6 mois. Mais voilà, pas forcément de rajouter énormément de temps de travail dessus. Après, bien sûr, des idées de jeu, moi j'en étais une centaine que j'ai notées. Il y en a plein, c'est de la merde, il y en a plein qui ont l'air vraiment pas mal, mais chaque chose en son temps, tu vois. Et
Voilà,
puis il
et
faut faire les
puis
prototypes pour
faire
tester,
des
etc.
prototypes, voilà, faire des petites game jams, faire des petits projets.
Parce que voilà, une idée en elle-même, juste une idée, c'est de la merde. Sans qu'il n'y ait pas le prototype, pour moi, ça ne vaut absolument rien.
Ah, c'est une idée, c'est toujours très très beau, mais tant qu'on n'a pas commencé, qu'on n'a pas déjà vu des choses dessus, ça reste une idée, quoi, il y en a des milliers.
Ça, ouais, c'est très important en plus de se confronter au problème de l'idée le plus rapidement possible. Et une fois que tu l'as fait, tu peux savoir si.
Du coup, vu qu'on parle de potentiel futur jeu, Dorian, et que du coup le développeur, est-ce que tu serais prêt, toi, potentiellement, si vous voulez faire un jeu 3D, à apprendre Unreal, ou est-ce que vous préférez rester sur Unity, quelque chose que vous connaissez, mais qui est peut-être moins adapté pour de la 3D, potentiellement, évidemment. Est-ce que tu serais prêt à faire ce pas-là de passer sur Unreal, ou est-ce que vraiment Unity c'est votre bébé, vous y restez?
Unity est très bien adapté pour la 3D. Énormément de
Oui,
jeux
c'est pour.
sont faits en 3D sur Unity et qui ont très
Des
très
jeux qui
très
marchent
très
très
bien
bien,
marché.
ouais. Oh oui,
Peut
les plus gros
citer, je
succès
pense,
Steam de l'année dernière.
Risk of Rain 2, oui,
Mais
Hades, je suis
quel
quasiment
banger!
sûr que c'est fait sur Steam. Bah après, ouais,
Lethal
c'est en
Company
premier.
aussi, c'est fait sur
Lethal
Unity.
Company, bien sûr. Non, en vrai, en fait, le
Ico
truc, c'est
aussi, c'est fait
que
sur Unity. Enfin bref, trop de trucs. Et
de
beaucoup,
toute
beaucoup, beaucoup, beaucoup de
façon,
choses.
je pars du principe que ça sert à rien de changer d'engine et tout, ça va pas forcément te rendre plus fort, etc. C'est plus, qu'est-ce que ça va te permettre de faire? À la limite, peut-être Godot un jour, si ça devient vraiment bien, bien à la Blender. Mais pour moi, Unity, déjà, oui, tu fais très bien les jeux 3D. Et oui, potentiellement, on est ouvert à l'idée de faire des jeux 3D plus tard. C'est juste que pour le
Ouais,
moment,
c'est plus
on
rigolo.
voulait rester 2D parce que c'est plus simple. Tout simplement,
Oui.
c'est juste plus simple, en fait.
Ok. Bon, bah, j'arrive à ma dernière question. Est-ce que vous avez des conseils, des recommandations pour des gens qui débutent dans le game design, dans le jeu vidéo en général, dans le développement, ou toi, Abel, pour de la 2D? Est-ce que vous avez des conseils à donner de la part de gens qu'on crée un studio, qu'on fait la chose, qui sont investis, qu'on 7500 wishlists en un mois, bravo, c'est très beau. Est-ce que vous avez des petits conseils à donner à des gens qui débutent? Vous avez quand même 5-6 ans de game jam derrière vous, vous avez déjà fait pas mal de jeux sympas. Est-ce que vous avez des conseils?
On a déjà dit pas mal de trucs en vrai en répondant aux questions, mais
C'est ça?
Ouais, faire des game jams, c'est sûr, c'est important si on veut faire du jeu
Yes.
vidéo. Enfin, toujours s'entraîner sur des petits projets et en faire en quantité. Nous, forcément, on avait des études à côté, mais si vraiment vos études, c'est de faire du jeu vidéo. Je pense qu'il faut en faire carrément plus que
Oui.
nous.
Et ouais. Moi, je dirais
Ah, vas-y,
aussi,
vas-y.
surtout très important, en fait, pourquoi nous on fait des game jams? Parce que ça nous permet de taffer sur un projet beaucoup et de rendre un projet on est quand même content, genre c'est un vrai truc, les gens peuvent jouer et en général c'est cool. Mais surtout, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de finir le jeu, et c'est le plus important. Parce que si tu fais que faire des prototypes et tout, tu vas peut-être apprendre des choses techniques et tout, mais tu vas pas avoir ce truc de finir le jeu, et du coup tu vas pas faire la phase de polish, et tu vas pas faire la phase de tu reçois des feedbacks, tu changes le jeu en fonction des feedbacks, ce qui est extrêmement important, et ce que beaucoup de gens négligent, et ce qui fait que il y a beaucoup de jeux qui sont mauvais juste à cause de ça, parce que les gens ils prennent pas le temps de prendre cette phase de tu dois retravailler le jeu, forcément t'es obligé de le faire, et t'es obligé de prendre les feedbacks, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles t'as pas pensé, et beaucoup de choses où t'es en mode oh là là c'est trop de la merde, tout le monde va dire que c'est nul à chier, tout le monde s'en bat les couilles, mais par contre l'autre truc que t'avais dit oh ça passe, non tout le monde est en mode c'est pas possible, il faut que tu changes ça. Ça c'est une phase qui est très importante, et je pense que beaucoup de gens la négligent, et je pense que la majorité des jeux Steam qui sont mauvais alors qu'ils ont quand même pas mal de reviews, c'est vraiment ça leur problème. C'est juste qu'ils n'ont pas testé et amélioré le jeu au fur et à mesure, comme ils auraient dû le faire. Et c'est ça leur vrai problème. Donc moi, ça, je pense que finir les jeux et passer cette phase-là, c'est très très important. Je
C'est
pense
vrai
que c'est ce qui te fait augmenter le plus de niveau. Ouais.
qu'on n'en a pas parlé, mais en général, quand on fait des game jam, quand c'est un jeu qu'on aime bien, en général, c'est très important pour nous les retours des gens et on prend toujours, enfin, surtout Dorian, pour mettre à jour et régler certains soucis dans les jours qui suivent la game jam pendant les phases de test où les gens commentent sur le jeu. C'est jamais des gros trucs, mais ça permet de régler les petits soucis et tout. Et c'est une phase importante pour avoir un truc bien fini.
Ouais,
Où t'es
sinon, je
fier.
sais pas. Un autre conseil, moi, je dirais, bah, après, ça va au contraire de l'autre, de ce que j'ai dit avant, mais il faut aussi, je pense, faire pas mal de petits prototypes, en fait, juste pour tester des idées, tester des choses, juste pour voir si ça marche. Tu te prends, une semaine, 2 semaines. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour, quand je passais de Construct à Unity. Pendant l'été, j'avais un peu de temps. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire un jeu pour tester sur Unity, pour essayer de, cette fois-ci, vraiment réussir à passer à Unity. Et du coup, voilà ce que j'ai fait. En 2 semaines, j'ai fait un petit jeu qui est pas terrible, mais pas ultra mauvais. Il est jouable, on va dire. Il est jouable et il est ok tiers. Mais voilà, fallait le faire, fallait tester, fallait y aller petit à petit. Mais voilà, je pense que c'est important de tester aussi pas mal de choses et pas forcément, justement, dans cette idée de pas les finir. Tu les finis pas, mais tu testes des choses constamment pour voir si ça marche. Et juste, ça te permettra de donner des outils pour plus tard. Donc ça, c'est important. Pareil, réutiliser du code, réutiliser des structures, je pense que c'est assez important. Et de les faire évoluer entre les projets. Ça te fait gagner du temps. Mais oui, après, c'est vraiment con, hein, mais juste faire des jeux, c'est ce qui te rend plus fort, en fait. C'est très con à dire, hein, mais juste, il y a juste beaucoup de gens, voilà, je pense que si tu fais juste des études de game design et que tu fais juste ce que les profs te demandent, tu manqueras peut-être un peu d'expérience. Je pense que c'est important justement de faire ces trucs de son côté, de tester plein de choses, de faire plein de choses que tu ne finiras pas et plein de choses que tu dois finir absolument dans un stade où c'est jouable et où tu peux être fier de ce que tu as fait en fait. C'est aussi ça, finir les jeux, ça te permet d'être après, pour aller regarder et de dire ah putain, je suis content de l'avoir fini, le jeu est sympa, voilà, tu vois. En fait, ça te motive tout simplement. Garder cette motivation. Oui, ah putain, c'est ça en fait. Le dernier point que je voulais dire, c'était. Je pense que quand t'apprends, il faut que t'arrives à gérer ta motivation, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que t'arrives à toujours trouver ce moment entre la difficulté et la facilité. C'est-à-dire qu'il faut jamais se mettre dans. Parce que par exemple, je me rappelle, il y a quelqu'un qui était venu me voir, qui me posait des questions sur. Parce qu'il voulait commencer à faire des jeux. Voilà, il me disait, oui, alors j'ai vu que sur Internet, il recommandait de faire le jeu en C++, etc. Alors qu'il avait jamais fait de code. Je lui dis, tu peux essayer, mais alors il faut que tu sois extrêmement chaud. Et je pense que c'est une mauvaise idée. Et pareil, pour lui, je lui ai conseillé, bah, plus Construct 3 au début si tu veux pouvoir tester. Parce qu'au début, ce que tu veux faire, c'est pouvoir créer un jeu, avoir des petites interactions et tout. Mais si tu te concentres sur le code, il va rien se passer, en fait. Donc ça peut être un problème, ou faire justement du Unity, etc. Ça peut te permettre de. Mais en fait, justement, toujours garder cette friction entre faire quelque chose qui est atteignable pour toi, pour pas trop te démotiver, mais pas non plus trop facile, comme ça tu vas quand même t'améliorer. Et je pense que c'est quelque chose. Les gens négligent souvent ça. Justement, quand ils essayent de faire un nouveau truc, ils essaient de faire un truc super bien, alors qu'ils sont totalement incapables. Ils ont du mal à s'en rendre compte, et ils ont du mal à prendre le temps de faire les choses correctement. Et aussi de les faire mal, en fait. Je pense que faire les choses mal au début, c'est bien. quand t'as du mal à avoir cette motivation, et une fois que t'es plus accompli dans ce que tu fais, tu peux prendre toute la motivation que t'as accumulée et tu peux te confronter à des problèmes qui sont beaucoup plus durs, où tu vas peut-être devoir passer des heures à te taper la tête et tu comprends pas pourquoi ça marche. Mais si tu le faisais au début, ça t'aurait tué ton projet, en fait. Ton projet n'existerait pas. Voilà. Bon, c'était un peu long comme conseil, mais...
Ah bah c'est ultra intéressant, hein. Et c'est vraiment des conseils qui sont intéressants, qu'on peut appliquer et qu'on peut donner à des gens qui commencent. Donc c'est vraiment, voilà. Merci beaucoup pour ces conseils. On vient déjà de passer une heure ensemble. Ouais. C'était vraiment super cool. Merci beaucoup de tout ça, du temps accordé, etc. Je mettrai évidemment en bio le lien de la page Steam, le lien de vos réseaux respectifs si vous le voulez.
Merci.
Ce fut un plaisir. Voilà.
Ouais, mais écoute, merci
à vous. Merci. Une très très bonne soirée.
Ouais, très très bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de GameView. J'espère qu'il vous a beaucoup plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec eux pendant plus d'une heure. On en a parlé un petit peu off-cam après, tous nos points de vue, etc. C'était vraiment passionnant d'en parler. Et j'espère que vous allez apprécier les nouveaux épisodes qui arrivent. Donc, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, bonne soirée.